Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du blog mespremièresruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2017. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Richard, un pasteur à la retraite qui vit aujourd'hui en Espagne avec son épouse. Il a commencé l'apiculture il y a 4 ans et pratique avec un ami roumain. Lors de notre échange, nous parlerons du miel de fleur d'oranger, du vol de ruche et également de la ruche Lions. C'est parti!
Donc merci beaucoup pour ce temps. Ma première question, ça serait quand est-ce que ça a commencé, la relation entre vous et les abeilles?
Disons que ça a commencé, oui, il y a presque 4 ans. Donc il faut situer que je suis en Espagne, je suis du côté méditerranéen.
Oui.
Hein, ce qui fait qu'il y a des conditions donc, de vie des abeilles qui est quand même ce que l'on peut retrouver donc, en France du côté de Nice, par exemple, sur la côte hein, d'Azur de ce côté-là.
Tu as commencé seul ou à plusieurs?
Non, on a commencé avec un groupe, donc un Roumain, qui lui fait ça donc, depuis 17 ans. Donc, il avait eu dans sa famille en Roumanie comment ça se passait. Mmh. Il est venu en Espagne. Bon, il a eu d'autres travaux. Il avait laissé un petit peu les ruches. Et ça faisait, 4-5 ans qu'il avait repris. Donc, c'est avec lui que l'initiation s'est faite.
Et comment est-ce que tu l'as connu, ce Roumain?
Disons qu'on fréquentait la même association. Et on en est venu, donc, à connaître les activités que l'on partageait. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien voir un peu comment que tu fais. Et puis donc, j'ai regardé, et puis ça m'a plu.
D'accord. Et est-ce qu'avant, auparavant dans ta vie, tu avais déjà rencontré des apiculteurs, ou est-ce que ça a vraiment démarré il y a 4 ans, cet intérêt
non,
pour l'abeille?
Non, j'avais un souvenir, au moins le souvenir qui m'a le plus marqué, je ne me rappelle plus dans quelles conditions, mais j'étais avec un agriculteur, bon, j'avais l'ouverture un peu écologique, avec un agriculteur qui était en bio, et il avait quelques ruches. Et le jour où j'étais dans sa propriété, justement, il y avait un essaim qui démarrait, et on s'est retrouvés, donc, sans combinaison, sans préparation, entre les abeilles. J'ai entendu le bruit, donc il m'a rassuré tout de suite, et j'ai vu effectivement je pense pas avoir eu de panique, mais j'étais impressionné et j'ai vu effectivement qu'on pouvait être parmi les abeilles en ayant des mouvements très doux sans qu'il se passe rien. Donc je pense que c'est cette image-là que j'ai gardée en mémoire.
Et donc il y a 4 ans, quand tu as commencé, comment est-ce que tu as appris l'apiculture? Est-ce que c'était une initiation par une personne ou est-ce qu'il y a...
Oui, c'est l'initiation, c'est-à-dire que on était trois, donc il y avait un prof, il y avait ce Roumain, oui. Moi je suis approché, donc ils avaient à cette époque-là peut-être 5-6 ruches. Et puis on a eu une occasion d'avoir des ruches qui avaient déjà servi, des usagers, on en a récupéré, bon il y avait en mauvais état, on en a récupéré une bonne vingtaine. Et donc, j'ai commencé avec 2 ruches. Ils m'ont dit, écoute, on va faire l'essaimage, 2 ruches, et puis j'en ai maintenant 6.
6, d'accord. Qui sont à côté de ta maison.
Alors, oui et non. Disons qu'ils sont à 3 km. Maintenant, on les a bougés un petit peu parce que c'est difficile dans la région. Il y a beaucoup d'orangers. C'est un peu la guerre depuis des années entre, il y a le miel de Hasar, le miel de fleurs d'oranger, qui est très réputé dans la région. Ouais. Et il y a ceux qui cultivent la mandarine et l'orange sans pépins. Et si pour sans pépins, il faut pas d'abeilles. Oh. Alors, c'est un petit peu la guerre. Alors, on avait sur une colline, en haut donc des roses orangées, on a eu les ruches qui étaient là-bas. Il a fallu les déménager. Et on les a mis donc dans la propriété du professeur.
D'accord.
Et puis, bon, le nombre augmentant, on sentait que les voisins étaient toujours inquiets. Alors, il y a un gars qui faisait de la culture de potiron biologique, presque au bord de la mer. Et donc, on a charrié, on les charrie donc chaque année, pendant la période de fleurs. Et puis cette année, donc, on va les laisser là, pour l'instant. Mais on recherche un endroit.
D'accord. Et pour toi, c'est quoi un peu les éléments pour trouver le bon endroit, le bon emplacement pour les ruches?
Le vol. Le vol et la proximité du public. Dans la région, il y a pas mal d'apiculteurs.
Oui.
Et s'ils sont, il y a des gens qui se spécialisent pour ramasser les ruches quand ils sont pleines. Et des fois,
D'accord.
c'est par centaines.
D'accord.
Hein, il y a des gens qui ont 200-300 ruches. Et donc, alors, eux les mettre dans des endroits en pleine montagne pour avoir tel type de fleurs. Et comme ils ne reviennent pas à chaque fois, bon, mais ils ont des fois des surprises.
J'ai vu un moment une photo de tes ruches. Si je me trompe pas, c'est le format Langstroth. C'est ça?
C'est du Thomas, c'est du format Dagan, c'est-à-dire un étage. Hein, ce n'est pas
Ok.
les layers où il y a deux étages. Hein. Ici, c'est layers, c'est-à-dire la caisse presque carrée, ou les deux étages, c'est-à-dire une pour les abeilles et l'autre pour le miel,
Ouais.
qui est beaucoup plus petite.
Je connais pas ce format de ruche. Oui, il y a des, je pense qu'il y a des formats qui doivent être typiques un peu de la
Alors, c'est
d'Espagne.
les cadres qui sont typiques. Parce que pour le producteur, donc c'est plus simple de retirer l'étage supérieur où il y a le miel et puis le transporter. Nous, il faut que l'on inspecte chaque cadre.
Et pour l'instant, enfin, ça se passe bien depuis ces quatre années.
Oui, ça se passe bien. Disons qu'on apprend, enfin moi j'apprends à mieux connaître un peu les réactions hein, des insectes. Cette année, c'est avec certaines maladies. Qui s'approchent, qui se développent, sur lesquels il faut lutter.
Lesquels, par exemple?
Bah, disons qu'on avait traditionnellement, l'année dernière, ça commençait un petit peu avec la Barossa, la vareuse, la Barossa, oui, en français, c'est.
Varroa.
Oui, Varroa,
Oh.
Barossa en Espagne.
D'accord.
Et donc, la première année, c'était aussi en hiver, on a des espèces de lézards qui rentraient donc dans les ruches. Donc là, on a trouvé donc les astuces. On a changé les grilles d'entrée. Et puis l'année dernière, c'était un petit peu la varroa. Et cette année, il semble qu'on a autre chose qui serait peut-être un virus. Hein. Il y a donc, je regardais les informations, il y a un virus qui vient d'étranger, encore un. Il y a une dépopulation des abeilles. On ne sait pas si c'est ça ou si c'est les traitements des arbres, des orangers.
Tu te rappelles plus du nom de la maladie? Est-ce que c'est la nosémose?
Non, parce qu'on ne la connaît pas.
On la connaît pas, mais
On
d'accord.
n'a pas d'identification sur les abeilles. On les retrouve mortes donc à l'extérieur.
À l'extérieur, d'accord. C'est oui, c'est une maladie donc externe à la ruche, non pas interne comme le varroa ou comme non.
Alors, ça semble être de ces dernières années, pour les apiculteurs, un élément difficile à surmonter.
Et est-ce que vous avez le frelon asiatique aussi en Espagne?
Non. Pas entendu parler de le frelon asiatique, non. Ce que l'on a eu dans le terrain où on l'a mis, ce sont je sais pas comment on les appelle en français, ce sont des espèces de, ce sont des oiseaux avec un long bec qui mangent les abeilles en plein vol. C'est des guêpiers, c'est peut-être le, il y a un, je
Oui.
sais qu'il y a une variété d'oiseaux qui s'appelle le guêpier et ils mangent les abeilles.
Est-ce qu'ils vont même jusqu'à attaquer la ruche même, comme un peu le pie vert peut le
On
faire?
les a pas vus, on les a vus en plein vol.
Dans vos habitudes par rapport à, enfin, d'apiculteur, vous y allez à peu près tous les combien de temps? Comment vous avez, à l'échelle de la saison, donc de mars, on peut dire à novembre, enfin, je ne sais pas comment est la saison en Espagne, mais comment est-ce que vous y allez toutes les semaines, toutes les 2 semaines?
Oui, disons que ce collègue roumain, donc, il va presque toutes les semaines. Presque toutes les semaines. Donc, une fois sur deux, il m'appelle et je l'accompagne.
D'accord.
Voilà, donc je pense que c'est assez régulier. On fait une visite régulière, justement, pour voir les couvains, surveiller donc comment on appelle ça?
Il y a des réserves?
Non, l'état des abeilles, j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot,
L'état
un essaim,
sanitaire?
voilà, l'essaim d'abeilles. Voir comment ils se comportent, son activité.
Et en termes de pratique, est-ce que vous faites des pratiques comme ben, le nourrissement à l'entrée de l'hiver, ou est-ce que vous nourrissez avec le miel que vous avez, une partie du miel que vous avez récolté, ou est-ce que ou plutôt vous utilisez un nourrissement externe que vous achetez?
Alors depuis 2 ans, du fait qu'en octobre on fait à peu près on soutire le miel au moins 3 fois par an. Hein, donc, on s'est aperçu que, en fonction, donc, parce qu'on a des possibilités d'arbres presque tout au long de l'année ou de plantes. Hein, un petit peu moins, c'est sûr. Mais en mars, donc, il y a la fleur d'oranger. Là, il y a le garoub qui est en ce moment. Donc, il y a différentes productions qui permettent, différents arbres, plantes, qui permettent donc d'avoir une production de miel. Donc, tu me demandais la fréquence de... Ah oui, le nourrissement.
Le nourrissement,
le
oui.
Nourrissage, le nourrissage. Alors, depuis 2 ans, donc, on a acheté donc des sacs de nourriture. Donc, c'est une composition d'eau et de miel avec quelques vitamines. Et puis, moi, j'ai dit, j'étais pas trop d'accord avec ça.
Ouais. Hein,
parce que, bon, c'est parce qu'on avait mal géré, je dirais, la récolte de miel. Et donc, on a gardé du miel. Et cette année, donc, je proposais de mettre un peu plus de miel et refaire notre préparation nous-mêmes.
D'accord. D'accord. Donc, il y a une partie de la récolte que vous réservez.
Oui, ou des miels de 2 ans que l'on n'a pas pu vendre ou que l'on va utiliser.
Ok. Et pour l'instant, la production est bonne ?
La production ?
Comment est la production en ce moment pour le miel ? Est-ce que ça va, vous arrivez à bien...
Disons qu'on a eu en juillet, fin juillet, on a fait ici quand même quelques jours, en octobre, non, oui, c'était en octobre, non, c'était en juin, et en octobre, et en octobre, les miennes ont bien donné, j'ai eu à peu près plus 25 kilos, quelque chose comme ça, avec 6 ruches. Pour moi, c'était étonnant, parce que je pensais jamais, j'aurais jamais pensé qu'autant de miennes pouvaient apporter.
Je vais me poser une question pour la... Si par exemple, il y a un débutant qui vient vous questionner en disant, écoutez, Richard, j'aimerais bien beaucoup démarrer l'apiculture, par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous pourriez répondre à un débutant qui vient vous voir?
S'il veut démarrer seul, tu le sais très bien, c'est pas évident. Le livresque, j'ai regardé après donc ce que les différentes choses que l'on avait, à moins de prendre un cours. Mais le cours, c'est bien, mais il y a toujours des petits détails qu'il faut savoir quand on est de visu. Hein, pour surveiller les couvains, voir comment la ruche réagit, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a une partie théorique. Et puis après, bon, il y a des gens qui se lancent à l'aventure, je crois, un petit peu comme toi, non?
Je me suis formé dans un rucher école.
Ah, d'accord.
Oui, avant, c'est un apiculteur qu'on connaît dans la famille qui m'a dit « forme-toi d'abord et après achète des essaims ».
Oui, il faut quand même... Et puis, apprendre, il me semble, c'est le respect donc de l'abeille, le respect de son rythme. Enfin, donc, il faut qu'il y ait un certain... Oui, plus que des précautions, enfin, il faut de l'amour, parce que c'est vraiment un travail merveilleux. Ouais. Surtout si on est amateur, on n'est pas producteur, donc il y a des fibres beaucoup plus sensibles sur le fonctionnement donc, des abeilles.
Il n'y a pas une logique économique derrière, on ne cherche pas une rentabilité.
Voilà.
D'accord. Mais là, pour l'instant, après ces 4 années de pratique, qu'est-ce que vous avez surtout envie de développer? Est-ce que vous avez une approche qui vous intéresse particulièrement ou vous voulez garder la même approche que vous avez?
Moi, ce que j'aurais souhaité, c'était une approche donc différente parce que quand on désopercule les cadres, je pense toujours au merveilleux travail que les abeilles ont fait. Hein, elles se sont données, récoltées, et nous, on vient saccager leur cadre, et on remet ça dedans, et donc, gentiment, patiemment, ils refont. Donc, pour récupérer le miel, c'est toujours quelque chose qui me déplaît. Hein. En plus, nous, on a une centrifugeuse, on la met le plus loin possible, mais on se met sous tente maintenant pour récupérer le miel, parce que ils sont attirés par l'odeur, et donc on est entouré, les abeilles peuvent tomber dans le miel et tout ça, donc il y a une perte. Et donc, voilà. Mais l'autre système, L'autisème, il est pour la production, donc c'est plus pratique, mais on ne suit pas tellement l'évolution des couvains et des maladies. Mmh. Donc, pour l'instant, voilà, c'est entre respecter le travail des abeilles ou avoir un œil plus attentif sur leur situation et sur leur développement.
D'accord. Oui.
Ce que j'aime bien aussi, c'est avec ce roumain, lui surveille beaucoup comment travaille la reine. Mmh. Hein? S'il voit qu'on a sur les essaims un essaim qui est un petit peu trop agressif, ah, il dit il faut que je change la reine.
Ah, donc il fait des changements de reine aussi.
Oui, oui, donc soit qu'il achète ou soit qu'il, au printemps, donc il essaie d'avoir de reproduire des reines. Mmh. Et effectivement, j'étais surpris qu'on pouvait, une ruche qui était un peu agressive quand on les ouvrait, se retrouvait beaucoup plus calme quand on avait des fois changé la reine.
D'accord. Donc vous faites partie pour l'instant d'un réseau où vous êtes trois ou vous connaissez encore, où vous faites souvent des sessions entre plusieurs éditeurs?
Non. Disons que tu sais qu'en Roumanie, c'est très développé, surtout, donc c'était très développé. Et donc, dans la région d'ici en Espagne, il y a pas mal de Roumains. Donc, il y a un autre copain de cet ami roumain donc, qui en fait aussi. Donc, il s'échange des conseils. Il s'échange aussi, de par la Roumanie, des traitements pour les abeilles, hein, notamment pour la vareuse, la varroa, oui. Donc, il s'échange, je dirais, oui, c'est surtout les traitements.
D'accord. Et quel traitement il utilise pour le varroa? Est-ce que c'est plutôt un traitement liquide ou un traitement solide avec des languettes?
Alors, c'est le traitement, donc la languette qui a trempé dans le liquide.
D'accord.
Et donc, la languette qui a trempé dans le liquide, parce que, donc justement, de Roumanie, ils ont un produit qui n'est, je ne sais plus, bon, voilà, qui ne se trouve pas forcément dans la même condition en Espagne, et on utilise ça. Là, ces derniers temps, j'ai regardé un peu par Internet pour avoir des choses écologiques. Donc, on a essayé, c'était la dernière fois, le thymol, ou sinon l'acide oxalique.
Ouais.
Hein? Voilà un peu les choses que l'on utilise. Mais c'est toujours le mode d'application, comment avoir le meilleur mode d'application donc de ces produits-là.
Oui, par rapport à la taille de la ruche, quelle quantité mettre exactement?
Oui, et puis où est-ce qu'on les met, sur le au-dessus, est-ce qu'on les met en dessous?
Oui, il peut y avoir par dégoûtement entre les cadres, certains font ça. Il y en a d'autres qui font par sublimation, c'est une sorte de vapeur.
Ah oui, j'ai entendu parler.
Les équipements sont assez onéreux, mais il paraît que c'est bien parce qu'il n'y a quasiment pas à ouvrir la ruche.
Oui, bah oui.
Mais sublimation, c'est que pour un seul type de traitement, il me semble que l'acide oxalique.
Oxalique, oui, oui, oui. Oui.
D'accord.
Et puis, l'autre, c'est pareil, il fait une, avec certaines plantes ou certaines huiles essentielles, donc il y avait un peu de thymol, et on, avec de l'eau, et on vaporisait ça, donc directement sur les cadres et sur les abeilles.
Sur les cadres, donc avec une sorte de pchit.
Oui, oui, c'est ça, un vaporisateur.
D'accord. Et pour l'instant, quand vous perdez vos ruches, c'est surtout pour quelle raison? Est-ce que c'est surtout à cause du varroa? Est-ce que c'est un essaimage?
Disons que de perte de ruches, on a eu des diminutions. Cette année, oui, les diminutions étaient si faibles que on a fait sortir, donc on a tué la reine, on a fait sortir les autres pour qu'ils se répartissent dans les autres ruches. Désinfecter la ruche au cas où ça serait un virus.
Ouais.
Hein? Et donc au printemps, on va la repeupler. C'est un peu les choses que l'on a faites.
D'accord. Donc on est vraiment arrivé à réunir les colonies faibles en fait.
Mm-hmm. Alors les colonies faibles, en reprenant des couvains d'une autre ruche, on fait des échanges. Voilà.
D'accord. Et en Espagne, la saison commence quand et termine quand?
Alors, je ne peux pas te répondre en Espagne, mais il faut savoir que l'Espagne, c'est un plateau. Toi, ici, on est au bord de la mer, 50 kilomètres, on est à 800 mètres, et c'est comme à Nice. Hein. Et à une heure d'ici, on est à 1000 mètres, et en ce moment, il est tombé de la neige. Donc, tu vois un peu. Donc, il y a quand même sur la bande côtière, il y a quand même une production qui se fait toute l'année.
Il n'y a pas vraiment un hiver.
Non, parce que à cette époque-là, il est tombé un petit peu d'eau, donc 15 jours après, il y a de la petite fleur. Il y a des petites plantes avec des petites fleurs qui viennent en plus petite quantité, mais enfin, il y a quand même du nectar. On a eu le garoube qui était en sur octobre. En avril, on va voir les fleurs de fleurs d'oranger. Hein, donc, c'est bien réparti. Très bien, ça serait plus l'été, puisque c'est un peu la sécheresse. C'est là où c'est peut-être un peu plus délicat.
Et comment vous faites pour gérer la sécheresse avec vos ruches? Est-ce que vous mettez des abreuvoirs à côté de votre rucher?
Ce tabis romain me dit non, parce que si on met un abreuvoir... Enfin, on a essayé, mais ça ne... Parce que quand même en été ici, le matin, il y a souvent de la rosée. Hein, donc il y a une rosée, donc les abeilles vont le matin récupérer de la rosée. Et ils vont le matin, et c'est ce qu'il me dit, il y a de la fleur, il y a la petite fleur, donc ils ont le nectar, donc ils ont de l'eau, du liquide.
D'accord, donc pas besoin d'abreuvoir. Et là, en ce moment, c'est quoi la plus grande difficulté que vous avez avec vos ruches? Votre défi actuellement par rapport à la gestion de votre rucher?
Le défi, ça serait peut-être à ce que l'on pense qui touche les ruchers en général.
La maladie, oui.
C'est évirus, la guêpe, non, le frelon asiatique, non, la varroa et peut-être le virus. On s'est aperçu qu'il y a 2-3 colonies là qui ont vraiment diminué très rapidement. On suppose que c'est ça. Voilà un petit peu la question. Et puis sûrement, les produits sanitaires, donc, pour le traitement des arbres, puisque ici, avec les oranges, il y a pas mal de traitements qui se font. Quoique ces deux derniers étés, on les était dans une zone plutôt que de maraîcher, et avec au moins 2 espaces en bio. Mais comme les abeilles vont assez loin, voilà, on est dans l'incognito par rapport à aux baisses donc de 2 ou 3 ruches.
D'accord. Ouais, pas un mystère. Et en France, on a le GDSA, le groupement de défense sanitaire apicole, qui généralement sont situés au niveau du département et qui nous tiennent au courant un peu des actualités sanitaires de la départementale. Je ne sais pas si cette structure-là existe aussi en Espagne.
Je suppose que pour les professionnels, il y a quelque chose.
Oui, mais pour les amateurs, ça ne vous dit rien?
Disons qu'il faudrait qu'on pousse. On a un numéro d'enregistrement.
Oui. Hein.
Donc, je pense que les professionnels ont quelque chose. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'inquiétude. Donc, on n'avait pas été plus loin donc, dans nos recherches.
C'est toujours mystérieux quand on a ces colonies dont le nombre diminue, c'est beaucoup d'observations. Essayer de voir comment elle était avant, est-ce que c'est à cause du varroa, est-ce que c'est à cause des réserves. C'est vrai que l'apiculteur est quand même un grand observateur.
Observateur.
On doit tous déduire par rapport à ce qu'on a vu avant, ce qu'on voit maintenant et ce qu'on peut voir après. Essayer de faire des corrélations par rapport à l'expérience qu'on a. Et parfois, c'est difficile.
Oui, parce que les facteurs sont étendus. Et donc, pour toi, quel est ton, je dirais, en recueillant comme ça différentes informations, tu élargis ta perspective, donc, et ton...
Oui.
Pour toi-même, ça t'enrichit, je pense.
Oui, ça m'enrichit. Et j'essaie de voir un peu, proposer des conseils à ceux qui veulent se lancer dans l'apiculture. Pour éviter de faire des bêtises, parce que je fais partie de 3 groupes Facebook d'apiculteurs, et il y a environ 15-20 000 personnes dans chacun de ces groupes. Et il y en a beaucoup qui commencent sans connaître des bases, sans être formés ou connaître une personne qui est formée sur l'apiculture. Certains veulent pas nourrir leur abeille, alors qu'il doit y avoir un nourrissement en miel ou un nourrissement externe, mais il le faut. Et aussi, il y en a qui ne traitent pas du tout contre le varroa. Ils disent, bah non, l'abeille, elle peut se débrouiller toute seule. Donc, j'essaie de proposer un peu des articles pour donner des conseils aux personnes qui veulent commencer l'apiculture, comment faire sans y passer trop de temps et en, voyez, un peu collecter ces conseils et redistribuer et repartager.
Puisque tu as un certain réseau, permets-moi de te poser une question.
Vas-y, hein.
Cette fameuse ruche donc que un groupe familial américain fait, tu sais que l'on peut mettre près de la maison, on ne touche pas à l'intérieur de la ruche, il y a simplement donc deux tirettes métalliques, hein. Tu connais ce système-là?
Oui,
et le miel se met à couler.
Ouais.
Est-ce qu'il y a tu connais des gens qui travaillent avec ce type de ruche?
Oui, c'est la Flow Hive qui est en Australie.
C'est ça, Flow Hive. Oui.
Et donc, oui, alors j'étais en relation avec un apiculteur que je devais interviewer dessus, mais il ne m'a plus donné de nouvelles via Facebook. Et lui, ça faisait un peu moins de 2 ans qu'il travaille avec en Australie. J'ai vu beaucoup de présentations quand même de cette ruche. C'est vrai qu'on a juste à actionner. En fait, la hausse a des cadres en plastique, oui, un peu en ce qu'on appelle
bâtiment. Incliné, oui.
Et donc, il a juste une petite molette à tourner. Donc, il a une petite molette à tourner et comme ça, oui, ça vient. L'opercule, en fait, se perce pas, oui, c'est simplement.
Ah oui.
Mais par contre, en fait, ça suppose que le miel soit déjà bien liquide. Si c'est un miel qui se fige, comme le miel de colza, par exemple, eh bien, là, c'est pas possible.
D'accord.
Faut plus récolter le miel. Faut vraiment que le miel dans la région dans laquelle on se situe soit très liquide. On peut l'utiliser. C'est vrai que c'est un peu moins perturbant pour les abeilles, parce qu'elles, elles ont juste à désoperculer la cellule et après remettre du miel dedans.
Oui.
Je trouve que c'est pas mal. Après, je pense qu'il faut quand même filtrer après. Il y a quand même un tamis à utiliser parce que souvent on voit j'ai vu des publicités où on avait juste à mettre son pot de miel, hop,
ah
on
oui.
action, et hop. Mais je pense qu'il y a quand même des résidus de cire qu'on doit enlever.
Mais ce que je voulais savoir, c'était surtout sur la surveillance parce qu'il y a juste, lorsque j'ai vu une petite fenêtre. Pour ouais. voir ce qui se passe, mais la surveillance justement des essaims, ça se fait quand même d'assez loin, non?
Oui. Je sais pas, oui, si c'est vraiment facile d'enlever la partie haute de la ruche.
Ah oui.
Comme c'est plutôt un toit, je sais pas. Si c'est très lourd, c'est vrai que ça serait pas facile d'aller voir ces ruches. Oui.
C'est la question que je me posais. Bon, en plus du prix, parce que c'est très cher.
Oui. Oui. Ouais. Souvent c'est décrié pour ça en disant ça enlève la relation que l'apiculteur a avec les abeilles parce qu'on n'observe pas, au moins. Et sinon, c'est orienté seulement l'apiculture sur le miel.
Voilà, c'est de consommateurs.
Voilà.
Et non pas
d'éleveurs. Il n'y a pas de relation de dôme. Mais ceux qui l'utilisent disent quand même que ça peut être pas mal. Mais bon, ça dépend de la région dans laquelle on se situe. C'est plus pour les climats chauds aussi, parce que faut voir aussi l'épaisseur des parois. Parce qu'en France, il me semble qu'il faut une épaisseur entre 2 et 3 centimètres pour l'hiver, pour que ce soit, que les seins aient assez chaud.
Résistant.
Pour l'Espagne, peut-être que ça serait plus, ça dérangerait moins, vu qu'il y a, je pense que vous souffrez pas.
D'accord, non, votre.
Plus du chaud que du froid. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait aussi d'en utiliser une.
Je suis un peu dans le même rêve que toi, mais le contact avec, je dirais le vrai contact avec la vie des abeilles, il se fait un peu à distance.
C'est vrai que tout, si on voit tout à travers une paroi, pas très intéressant. Et pour moi, la récolte, je la fais J'utilise un pressoir pour faire la récolte, comme l'huile d'olive, comme l'olive en fait.
D'accord.
Donc vraiment une presse avec, ouais, il y a un cylindre et en fait je viens presser à la main, donc c'est très très long. Donc en fait je suis obligé de couper toutes les housses, enfin toute la cire des housses, donc
D'accord.
vraiment l'ensemble de la cire tombe dedans. Et après une fois que j'ai tout pressé, donc ça va aussi dans un fût en inox, j'essaie d'utiliser le moins possible de plastique. Moins j'ai de plastique dans la ruche et mieux je me porte. Même
Moins
si le
de quoi de?
plastique,
Ah d'accord.
j'utilise pas de ruche en plastique, bah, je crois que vous non plus. Ou même pour la maturation du miel, j'utilise que de l'inox.
D'accord.
Pour je trouve que enfin ouais, j'aime pas trop le plastique. Mais bref, donc je presse le miel et après je le fais reposer 4-5 jours. Mais l'approche de la presse est assez intéressante, mais c'est quand même très long.
Oui, et puis disons que toute la cire, tu es obligé de refaire donc les cadres après, c'est ça, hein?
Ah oui, ça fait un. Hop.
Pourquoi? Parce que la désoperculation est une.
Je le fais pas. Je le mets directement.
Ben oui, c'est ça. Oui, bon.
Il paraît que la saveur du miel, enfin le miel est beaucoup plus savoureux quand on presse parce qu'il y a moins de bulles d'oxygène. En fait, c'était un peu la grande différence
D'accord.
entre la centrifugeuse et la presse. C'est que la centrifugeuse, en fait, le miel va très vite contre les parois, et du coup, des bulles d'oxygène viennent se mêler au miel. Et lorsqu'elles remontent tout doucement à la surface et elles éclatent, il y a une partie des
De
saveurs du
l'arôme.
miel de l'arôme, qui est perdu à ce moment-là.
Ah, d'accord.
C'est ce que certains disent. Mais je pense que quand même, je viendrai à la centrifugeuse pour une bonne partie de la. Ouais, j'en trouve, mais oui, je pense que
Non, mais
j'irai
c'est
quand même.
intéressant parce que ça te permettra effectivement de voir la. Bon, c'est une comparaison qui revient, qui est plus difficile, mais c'est intéressant. Je n'ai pas pensé à cette option-là.
Mais moi j'ai perdu sur les 3 ruches que j'ai ai perdu 2, une dont la population était très faible, donc j'ai dû réunir, et donc quand j'ai enlevé les cadres de la ruche que je voulais mettre dans une autre, et eh bien j'ai vu la reine, donc il fallait que je la tue, et j'en étais incapable. J'ai pas pu, elle était dans mes mains, c'était une jeune reine de l'année. Et j'ai pas pu la tuer, c'était impossible. Je me dis qu'elle a rien fait.
Aïe,
Et elle s'est envolée. Alors en vol, j'ai essayé de la prendre, de l'écraser en vol, un petit dernier réflexe, mais j'ai pas réussi non plus. Donc du coup, elle est partie mourir quelque part. Et quand je suis allé retourner voir les saints 3 semaines après, la population était bien nombreuse, donc elles ont bien été réunies, les deux ruches.
d'accord.
Mais bon, c'est tuer une reine. Le jour où ça m'arrivera, ce sera un moment difficile. Même
Oh,
si.
c'est merveilleux l'organisation, le travail. Bon, on a un petit bout de jardin donc, où il y a un romarin qui est juste devant presque la fenêtre. Donc, voir travailler comme ça de près les insectes, laborieuses, disons que des insectes laborieux, c'est vraiment le mot qui convient. Dévoués à leur boulot et. Et donc, c'est effectivement pour un professionnel voit peut-être ça d'une autre manière, mais les amateurs découvrent tout un monde d'une organisation, d'une sensibilité, hein, parce que leur pérage, on avait déplacé deux ruches, on les avait remontées de 20 cm. Bon, les ruches, quand elles rentraient, elles ne retrouvaient pas la porte. Elles retournaient donc à la même disposition qu'il y avait avant.
C'est
Donc, au bout d'un certain temps, elles ont compris en voyant les autres, mais ça veut dire qu'il y a une précision dans leur vol, c'est extraordinaire.
Absolument. Là, je me suis inscrit à un MOOC, un cours en ligne qui est gratuit. C'est l'Institut national de recherche agricole, qui est un MOOC sur l'abeille et l'environnement. Et ça dure 4 semaines. Et il présente vraiment enfin, l'abeille dans son anatomie et aussi par rapport aussi à l'environnement, les grandes influences agricoles, l'impact de l'agriculture sur les abeilles et aussi des préconisations sur le fait d'arriver Ils demandent aux agriculteurs de planter plus de haies aux alentours des champs, comme ça permet une intersaison, parce que y a en France on plante beaucoup de tournesol et de colza. Et entre les deux, eh bien, il y a quasiment 2 mois où il n'y a pas de fleurs.
Ah
Donc,
oui.
ils essaient de demander aux agriculteurs de, enfin, ils conseillent aux agriculteurs de planter des fleurs qui puissent faire l'intersaison, qui est plus perte de nectar pendant ces 2 mois. C'est très intéressant comme cours. C'est vraiment des chercheurs qui expliquent comment ça se passe.
J'ai vu qu'avec les Suisses, je suis tombé sur des sites en Suisse, plutôt dans la technique donc de donner les techniques de traitement. Donc il y avait on rencontre des fois des écoles d'apiculture intéressantes.
Oui.
Et des études, notamment des études sur le traitement des maladies. Oui, c'est surtout sur le traitement des maladies qu'on retrouve des choses intéressantes. Je trouve formidable ce que tu fais.
Parce que ça me plaît beaucoup, hein. Vraiment une vraie passion.
C'est un partage, tu t'enrichis toi-même et puis ça permet aux autres d'ouvrir un peu le panorama donc, de ce qu'ils font. Voilà, donc,
c'est vraiment une confrérie, je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de concurrence entre les apiculteurs. Si le voisin fait 20 kilos et moi j'en fais que 10, par exemple, ben c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de concurrence et on essaie tous d'œuvrer vers un but commun dans l'apiculture. C'est ça que je trouve magnifique. On a tous des pratiques, des pratiques très différentes. Certains sont très bio, veulent faire des traitements très, ouais, vraiment le plus au respect de l'abeille. D'autres, des méthodes plus courantes. La la chimie inventée. Donc oui, il y a quand même des courants particuliers, mais c'est une vraie... Oui, je trouve ça génial de
parler. Une vraie confrérie, alors.
Une vraie confrérie. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Richard.
Ah ben, c'est moi qui te remercie, Guillaume. Hein. C'est un bon moment.
Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie également Richard pour avoir partagé son histoire. Vous faites partie des 20% des auditeurs qui est allé jusqu'au bout de ce podcast et je vous en félicite. Vous faites partie de ceux qui veulent apprendre et progresser en apiculture. Vous êtes libre de vous abonner à ce podcast. Je suis présent sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify. En allant sur mon blog mespremièresruches.com, vous êtes libre de recevoir un guide gratuit de l'apiculteur débutant dans lequel je vous apprends les bases de l'apiculture et je vous donne des conseils pour bien démarrer et devenir un meilleur apiculteur. Je vous invite à partager ce contenu au groupe et forum d'apiculteurs que vous connaissez. Cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume@mespremièresruches.com. Je lis tous les emails et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez, comme Richard, partager en tant qu'invité sur le podcast parce que vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou également représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, contactez-moi directement par email à guillaume@mespremièresruches.com. À bientôt!